règle en Jacob, une loi en Israël. Jacob et Israël, c'est la même chose. Dieu a fixé une règle, il a établi une loi. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants. Le verset suivant nous donne la raison de cette volonté de Dieu. Pourquoi transmettre aux enfants? Afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits de Dieu, Dieu fort, et qu'ils observent ses commandements. On pourrait s'arrêter là, mais il y a encore une raison. Pourquoi transmettre aux enfants? Pour qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, une génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Terrible verdict de la génération passée. Ce qui me rassure et qui honore mon Dieu, c'est que Dieu ne s'arrête pas à une génération indocile et rebelle, au cœur trop inconstant et à l'esprit infidèle. Dieu pense à la génération future et il ne veut pas que la génération future soit comme une génération du passé qui ne lui faisait pas honneur. Dieu veille sur la transmission de sa parole. Alors, chers adultes, laissons-nous interpeller par Dieu. Nous devons avoir le souci d'honorer Dieu. En même temps, avoir le souci de collaborer avec lui pour que la génération qui nous succède ait tous les moyens pour l'honorer, pour le connaître, pour l'aimer. Et Asaph, en bon pédagogue, invite le peuple à tirer les leçons du passé et à transmettre du positif à la génération à venir. Ce que ce psaume dit est vraiment d'une importance capitale. Oui, tout à l'heure, je l'ai rappelé, Asaph insistait sur un point. L'être humain doit écouter Dieu. Il doit être attentif à Dieu. Il ne doit pas l'oublier et il doit l'honorer. Écouter, être attentif pour se laisser instruire et pour être utile aux autres. Déjà entre nous, nous devons nous encourager à rester positifs, fidèles et exemplaires. Mais vis-à-vis de nos enfants, c'est encore plus important. Il y a 4 psaumes dans le psautier qui se ressemblent. Vous les lirez chez vous. Retenez juste le numéro. Le psaume 105 et le psaume 106, ça se suit, hein? Psaume 105 et psaume 106, psaume 136 et celui que nous avons lu aujourd'hui, le psaume 70. Ces 4 psaumes pour Israël, c'était un peu comme la Marseillaise pour les Français. En mieux. Ces 4 psaumes étaient des hymnes nationaux. Et le thème dominant de ces quatre psaumes, c'est de rappeler la délivrance d'Israël. N'oublions jamais, nous qui sommes assis là, que nous ne sommes pas meilleurs que d'autres dans le monde, mais que par la grâce de Dieu, nous avons été délivrés, libérés du péché par Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et la première chose que nous devons annoncer à nos enfants, à la génération future, c'est que nous sommes des pécheurs graciés, pas des surhommes. Parfois l'adulte se prend pour Dieu. Tais-toi mon petit gamin, c'est moi le grand. C'est pas ça l'attitude que Dieu souhaite. C'est plutôt, je suis soumis à Dieu, comme toi mon enfant. Tu devras l'être envers celui qui veut te guider. Ces psaumes rappellent que les fautes du passé aussi ont existé. Adultes, ne transmettons pas à nos enfants un idéal que nous aurions aimé vivre, mais qui n'a jamais existé. Le passé est rempli de mauvais exemples. Et nos enfants le savent. Et s'ils ne le savent pas, ils le découvriront très très vite. Oui, à la génération future, rappelons que les mauvaises expériences du passé ne sont pas là pour être reproduites. C'est pourquoi nous avons le devoir de demander pardon à Dieu. Pour notre médiocrité, pour notre incapacité de l'honorer pleinement. Nous ne devons pas donner l'image à nos enfants que nous sommes des êtres parfaits, mais plutôt donner l'image d'un Dieu parfait qui s'occupe de chacun de nous être imparfait. C'est cela que nous devons transmettre. Et ce que nous devons transmettre, c'est ce virus. Ce que nous ne devons pas transmettre, c'est ce virus de l'oubli. Aujourd'hui, on est spontané. Ne compte que le présent, l'immédiat. La boîte qu'on ouvre, qui est déjà prête à être consommée, alors qu'il n'y a pas besoin d'éplucher, de laver, de cuisiner, ça va très vite. L'oubli du passé. Le passé, il s'est mis en place petit à petit. N'oublions pas toutes les étapes que Dieu a prévues dans la création même, dans le développement des sociétés. Disons à nos enfants combien il faut aussi être patient. Ne leur cachons pas la vérité, la réalité, mais apprenons-leur plutôt à gérer ces réalités, et cela n'est possible que si nous leur transmettons la connaissance de Dieu. Car toutes nos impossibilités, si nous les offrons à Dieu, c'est lui qui agit en nous et nous donne capacité de vivre positivement. Cacher le message aux enfants, c'est se taire. De ne rien dire, tu verras plus tard, quand tu seras grand, tu feras tes expériences, tu verras plus tard. Ce n'est pas cela, éduquer un enfant. C'est pourquoi la parole de Dieu, notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, et pour toutes les composantes de ce monde, oui, la parole de Dieu a sa place. Dans le cœur d'un enfant, dans la famille, il est bien sûr triste de constater qu'aujourd'hui, la Bible a de moins en moins de place sur la table qui se trouve au centre de la maison. Elle est plutôt cachée sous la poussière dans une pièce. boîte en carton où on a rangé tout ce qu'on n'avait pas besoin. Non, la Bible, c'est un livre de chevet. Pour le matin, pour le soir, pour chaque instant de la journée. Sachons transmettre à nos enfants ce qu'il y a de meilleur. J'ai affiché tout à l'heure ce verset de Deutéronome 6. Tu inculqueras, c'est un verbe très fort. C'est pas timidement, tu mentionneras un petit quelque chose qui t'est apparu bien dans la Bible. Non, tu inculqueras l'ensemble de la pensée de Dieu, l'ensemble de la loi de Dieu, l'ensemble de la parole de Dieu. Je me souviens quand j'étais enfant, nous étions souvent entassés dans une petite voiture sans ceinture de sécurité, ça n'existe pas, sans imposition du nombre. Aujourd'hui sur le marché vous avez des véhicules 4 places, 5 places, 10 places, 7 places, 8 places, 9 places, ça s'arrête à 9 hein, pour les permis. À l'époque on mettait autant de monde qu'on pouvait. On était parfois 10 dans une auto qui, aujourd'hui, est limitée à 5. Ça ne posait pas de problème. Je me souviens même de notre premier véhicule, jeune marié, c'était une 2 chevaux. Vous voyez le véhicule ? Normalement, c'est 4 places et la ceinture était devenue obligatoire pour le chauffeur. Au début, 2 places d'avant, je ne sais plus. Mais pas pour l'arrière. Dans la 2 chevaux, il y avait mon épouse, moi-même. Derrière, il y avait 2 enfants. Et le landau, il tenait en équilibre sur le dossier du siège avant conducteur et le dossier du siège arrière passager, en hauteur. Et vous savez, les 2 chevaux, c'était décapotable. Alors, celui qui était dans le landau, souvent, quand on a beau temps, il avait tout le ciel à lui tout seul. Ça ne gênait personne. Personne n'était attaché, à part quand les premières ceintures sont apparues, le chauffeur et son passager. Mais il y avait quelque chose dans ces véhicules-là du passé. Il n'y avait pas de radio. Ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas de tablette pour regarder un film ou un jeu vidéo comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les sièges d'auto, s'il y a des enfants, vous voyez un écran sur le siège avant du conducteur, un autre sur le siège du passager. Comme c'est que 2 places, il n'y a que 2 enfants. Il n'y en a pas tous. Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, nos parents chantaient. Mon auto Jésus la guide sûrement. Avec lui, je file de fil en chantant. On chantait plein de chants que je connais encore aujourd'hui, phrase après phrase. Ce qu'on apprend enfant, on n'oublie pas. La parole de Dieu transmise aux enfants. Quels sont les parents qui aujourd'hui trouvent encore du temps à passer avec leur enfant pour discuter, pour s'expliquer, pour écouter le besoin de l'enfant, pour prier avec lui? Souvent, c'est la télé qui s'occupe des enfants, ou la tablette, ou le jeu vidéo. Après, on a un remords de conscience, oui, c'est nocif pour l'enfant. On va quand même faire attention jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ne pas trop le laisser faire. Mais il y a des enfants qui passent le plus clair de leur temps en seule compagnie de leur tablette. Ils n'ont plus d'adultes pour les enseigner. Prenons à cœur de ne pas cacher le message et aussi de ne pas le déformer. Car il y a aussi des adultes bienveillants qui pensent devoir inculquer à leurs enfants quelque chose qu'ils ont décidé être l'Évangile, mais qui n'est pas l'Évangile. Je veux parler de quoi ? Il y a bien des chrétiens qui ont fait de la Bible un instrument moralisateur. Tu ne dois pas ci, tu ne dois pas ça, et tu dois ci, et tu dois ci, et pas ça. Et si tu fais ça, ben ça se passe bien. Si tu fais pas ça, ça se passe mal. Et l'évangile de la peur. Attention, le jugement. C'était au Moyen-Âge, mais ça revient. Ça revient. Nous n'avons pas à transmettre un évangile moralisateur. C'est pas ce que Dieu nous demande. L'évangile est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle que nous avons à transmettre à nos enfants. Même si cette bonne nouvelle contient en son centre la mort de Jésus. C'est un événement insupportable. Faut-il le transmettre aux enfants ? Oui, la mort de Jésus, elle est plus qu'une mort. Elle est le pardon de nos péchés. Elle est la libération de chacun d'entre nous de l'influence et de la puissance du péché. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est notre réconciliation avec Dieu notre Père. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que nous ne sommes plus seuls. Nous faisons partie d'une famille qui appartient à Dieu. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous prépare un royaume où nous régnerons avec lui. Je ne cite que ces faits-là, car c'est central. L'Évangile, une bonne nouvelle, un Christ ressuscité qui a tout payé pour chacun d'entre nous. Ne transmettons pas l'Évangile avec médiocrité, en faisant un message peu crédible. Il y a parfois des gens qui s'amusent à déformer l'Évangile. Jésus devient un copain, un gars bienveillant, un caïd qui a chassé les vendeurs du temple, qui s'est imposé, qui a fait face au plus puissant du monde. Pilate, tu n'as aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Toi, le Tout-Puissant, tu n'as aucun pouvoir. Oui, on a tendance à faire de Jésus ce gars sympathique. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible, c'est cet homme humble, obéissant jusqu'à la croix pour le pardon de nos péchés. C'est celui qui nous dit, personne ne vient à Dieu le Père sans passer par moi. C'est-à-dire sans recevoir le pardon que j'ai acquis sur la croix. Et rassurez-vous, je m'en vais. Mais vous ne resterez pas seul, je vous enverrai mon esprit, il habitera éternellement en vous, je serai toujours avec vous. C'est ce Jésus-là que nos enfants ont besoin, et pas quelqu'un fabriqué avec médiocrité. Et un dernier point que j'aimerais vous transmettre, nous ne sommes pas là pour convertir nos enfants. Ah, pourtant c'est ce que la Bible dit. Allez par tout le monde, faites des disciples. Convertissez-les. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 28 ? Convertissez-les avec des bâtons. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les. Non, il n'est pas question de convertir. Il y a des parents, souvent, qui sont tristes. Parce que leurs enfants ne suivent pas le Seigneur. Ont-ils été fidèles dans la transmission telle que Dieu la demande ? Je n'en sais rien. Mais souvent je m'aperçois que les parents ont pensé qu'ils devaient convertir leurs enfants. Et avec des pressions pas possibles, ils essayaient d'agir sur leurs enfants. Ce n'est pas notre rôle de convertir quelqu'un. Notre rôle, c'est d'être des témoins. C'est Dieu qui convertit. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. C'est l'Esprit de Dieu qui présente Jésus comme l'unique sauveur. Et tant que tu n'as pas reçu cette conviction que sans Dieu tu es perdu, sans Jésus tu n'as pas d'accès auprès du Père, tu ne peux pas changer. c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous devons transmettre la parole de Dieu, le témoignage de Dieu. Ce n'est pas à nous de convertir les gens. Alors ne cachons pas ce beau message de Dieu à nos enfants. Prenons le temps à la maison d'ouvrir la Bible, de la lire régulièrement. Tel verset ne dira rien à personne, ni à l'adulte, ni à l'enfant, et à beau jour. Comme il s'éclaire. Et c'est la révélation que Dieu a prévue pour ce jour-là. Alors qu'on l'a déjà lu 10 fois ce verset. L'important d'être fidèle dans la transmission de tous ces beaux récits de la Bible qui rappellent ce que les générations précédentes n'ont pas fait dans leur désobéissance. Mais tous ces récits aussi qui rappellent combien Dieu est toujours prêt à s'occuper de quiconque se confie en lui. C'est ça le message de la Bible. Les enfants ont droit à cette révélation. Soyons le maillon qui leur permet de recevoir le message, de le faire leur propriété et le moment venu de réagir. Seigneur, c'est de toi que j'ai besoin. Fais ma vie, transforme ma vie. Et il y a un message qu'on oublie trop souvent. Azaph disait, écoutez-moi, prêtez l'oreille, réalisez bien ce que je vais vous enseigner en parabole. Mais il y a un autre message que nous devons aussi donner d'une autre manière. C'est notre vie, notre exemple. Les enfants nous regardent. Et souvent, ils font des remarques pertinentes que nous n'attendions pas. Un enfant, souvent, est capable de te dire la vérité aux adultes. On ne s'est pas vu de la sorte. Mais ils ont réalisé que l'incohérence de l'adulte doit être soulignée. Ce que tu fais, monsieur, c'est pas bien. Toi, mon papa, c'est pas gentil, hein. Pas ce que Dieu veut. Et toi, ma maman, pourquoi tu te fâches comme ça? Les enfants ont parfois une réaction naturelle qui nous rappelle, attention, ils nous regardent. Il y a un auteur qui écrivait ces mots qui me paraissent fort intéressants. Parlant à l'adulte, il dit, si tu ralentis, l'enfant, il s'arrête. Si tu faiblis, lui, il flanche. Si tu t'assois, lui se couche. Si tu doutes, lui se met à désespérer. Si tu critiques, lui emploie les gros moyens pour démolir. C'est ce qui se passe dans notre société. Mais si tu marches humblement avec l'enfant, lui donnant la main, lui te donnera sa vie. On ne connaît pas l'auteur de ces lignes, mais combien il me semble réaliste. Nos paroles sont importantes, mais notre exemple de vie parle encore plus fort que nos paroles. Alors joignons les actes aux paroles. Ne soyons jamais le maillon absent dans la transmission que Dieu se plaît à donner aux enfants. La foi des enfants naîtra de ce que nous leur enseignerons. Quand je dis foi, bien sûr, il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'une vraie foi? La foi dans la Bible, elle a deux sens. Le premier sens de foi, c'est tout le contenu de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit, que je considère comme vrai et que je laisse pénétrer en moi, la foi, le contenu de tout le programme de Dieu. Et il y a un autre sens de la foi, ce deuxième sens, il n'est produit que par l'Esprit de Dieu. C'est finalement cette confiance que l'Esprit crée en moi pour que je puisse m'approcher du Seigneur Jésus et le reconnaître comme mon sauveur. Dans le premier sens de la foi, je peux prendre toute la Bible et dire « oui, elle est parole de Dieu » sans y adhérer. Dans le deuxième sens de la foi, l'Esprit me dit « eh bien oui, toute cette parole est vérité, mais je te propose plus. Je te propose de te confier en celui qui est la parole faite chair. Celui qui est devenu ton sauveur et qui te libère de l'impossibilité de suivre quoi que ce soit de la vie. Oui, je te propose, dit l'Esprit Saint, de changer de vie et de devenir un transmetteur d'espoir, un communicateur de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. Je veux que tu collabores avec moi pour devenir tout simplement celui qui parle du salut que moi seul je donne. Dieu, dit le psaume que nous avons lu, a dressé un témoignage et il a ordonné que ce témoignage soit transmis. Mercredi, nous avons parlé du psaume 19. La loi parfaite que Dieu a donnée, cette loi qui restaure l'âme, cette loi qui redonne vie, cette loi qui n'est pas une loi pour tout le monde, mais elle est pour ceux qui ont accepté de cheminer avec Dieu. Sinon, elle est irréalisable. Oui, la loi de Dieu, c'est ce que nous devons transmettre. Alors faisons-le fidèlement. Ne privons pas nos enfants de cette richesse. Ne les laissons pas sans ce témoignage. Il y a dans le Nouveau Testament un très très beau verset que j'aime énormément et que je vous affiche. C'est Paul qui parle à Timothée, son disciple, et qui lui dit « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction et tu sais de quoi tu l'as appris. » Comment Timothée aurait-il pu devenir Timothée sans recevoir, sans apprendre? Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Pouvons-nous en dire autant de nos enfants ici? Connaissent-ils les Saintes Écritures depuis leur plus tendre enfance? Ces Écritures qui peuvent te donner la vraie sagesse et qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu, afin que l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Génération future, elle sera positive si nous laissons Dieu la préparer. Soyons donc ses transmetteurs. Timothée connaissait depuis son enfance cette écriture inspirée de Dieu qui enseigne, qui réfute, qui redresse, qui apprend à mener une vie conforme à Dieu. Comment nos enfants pourront-ils mener une vie conforme à Dieu si nous ne les nous enseignons pas. Alors j'entends, oui, il faudrait des pasteurs formés, plus compétents que tous ceux qu'on a. Il faudrait des docteurs, il faudrait. Mais ça, c'est une manière de s'excuser. Car les principaux concernés dans la transmission,
c'est vous. Parents.
Alors curieusement, dans la Bible, le premier commandement à transmettre, à s'adresser au Père. Le Père avait rôle d'éduquer. La mère avait rôle de...
Prendre soin de moi.
Proverbe, mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père. Et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Rassurez-vous, on ne va pas lancer le débat ce matin. Mais un jour, j'aimerais prendre le temps de parler de l'éducation qui est le rôle du père et de l'instruction qui est le rôle de la mère. Et ensemble, ils font un duo parfait pour le bien de l'enfant. C'est aux deux qu'est demandé d'instruire l'enfant. Mais dans le cas de Timothée, il connaissait depuis sa plus tendre enfance la parole de Dieu. Qui lui a enseigné? Exact. Parfois, malheureusement, le père fait défaut. C'était le cas chez Timothée.
Sa mère, son aîné.
Il avait un père grec qui n'était pas prêt à lui enseigner la parole de Dieu, et d'autres croyances. Ça peut être votre cas. Le père est absent. Paul dit, je garde souvenir, en pensant à toi Timothée, de ta foi sincère. D'où vient-elle cette foi sincère? Elle se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. En te regardant, toi le petit, instruit dans la loi de Dieu, tu as bénéficié de l'apport de ta grand-mère. Alors, s'il y a des grand-mères parmi nous, prenez courage. Vous êtes au premier plan dans la transmission pour la génération future. La grand-mère Loïs.
Loïs.
Un beau prénom, hein, si vous avez besoin de prénom. La mère Eunice. Deux femmes, pas de père dans l'histoire. Maman, dans votre famille, ne cherchez pas d'excuses. C'est au père de le faire, c'est pas à moi. Non. Celui qui a les enfants à cœur s'engage personnellement. Il n'attend pas les autres. Et j'aimerais, en terminant, rajouter quelque chose qui me semble tout à fait biblique. On ne va pas à l'église pour être enseigné de toutes les vérités que Dieu a mises dans sa parole. C'est le rôle de la famille, du père, de la mère en premier, de la grand-mère, de tous les adultes en général. La Bible dit, Dieu a donné à l'Église des pasteurs, des docteurs, des pour le complément. Pour le complément. Alors, n'attendez pas, chers parents, tout de l'Église. les moniteurs d'école du dimanche, c'est pas leur rôle d'enseigner vos enfants. C'est à vous d'enseigner vos enfants, Bible en main, foi dans votre cœur, consécration, exemplarité. Le rôle des encadrants, c'est de perfectionner ce qui a été commencé. C'est un complément. De la même manière que les parents apprennent aux enfants à parler, ce n'est pas l'école qui leur apprend à parler. Ils doivent déjà avoir une base avant d'aller à l'école. N'attendez pas tout de l'école de la République. Ce n'est pas elle qui va parfaire vos enfants. C'est à vous d'apporter à vos enfants l'essentiel du respect de Dieu. Nous ne cacherons pas Dieu à nos enfants. Prions. Seigneur Jésus, tu as toi-même été un enfant, tu es mon frère, toujours.